Chapitre 14. Bienvenue au nuage rose. Ils passèrent tous les trois sous la pyramide de verre, puis se dirigèrent en suivant Sabi vers le pavillon des savants. La pluie continuait de se fracasser contre les parois de verre. Le château paraissait désert. La plupart des ados devaient attendre dans leur chambre que l'orage s'éloigne. Ils descendirent l'escalier du passage de l'horloge. À droite, le couloir menait au sphinx, au dortoir et aux salles de cour des savants. À gauche, le couloir débouchait sur...
« Tu te souviens, petit barbare ?»
lança Sabi.
« Tu te souviens ? Ton premier appartement au château ?»
Le cachot, comprit Zizo. Il se rendait au cachot, sous l'ancien donjon du château, où il avait été enfermé chaque soir pendant près d'un an, avant de pouvoir à nouveau se promener librement.
« Cette cave, précisa la lolligirl, ne sert plus à rien depuis que notre vénéré ministre des punitions a eu l'idée d'enfermer tous les vilains à la conciergerie. Et comme elle était libre, j'ai eu une sacrée idée !»
Zizo et Alix s'attendaient au pire. Sabi poussa la lourde porte de bois de l'ancien donjon. Presque aussitôt, ils retinrent leur respiration, pris de panique, sans comprendre ce qui leur arrivait. La salle de l'ancien donjon était plongée dans un épais brouillard. Un nuage de couleur rouge pâle ne permettait pas de voir à plus de 3 mètres.
« Bienvenue au nuage rose !» annonça Sabi.
Elle avança et disparut dans la brume. Zizo prit la main d'Alix, soucieux de ne pas la perdre de vue. Ils rattrapèrent Sabi qui se dirigeait dans la pièce comme si elle était capable de voir à travers le brouillard.
« Il y a une place libre là-bas »
fit-elle. Un instant plus tard, ils étaient installés tous les trois autour d'une table de bois, enveloppés dans un nuage un peu moins épais. Les yeux de Zizo commençaient à s'habituer à cette ambiance bizarre quand soudain, des sons étranges leur agressèrent les oreilles. Comme si quelqu'un s'amusait à taper à un rythme ultra rapide sur des bouteilles de verre.
« C'est quoi tout ça ?» demanda Alix. « Le nuage rose, l'endroit le plus branché de la galaxie. J'ai imaginé toute la déco. Pour le brouillard, j'ai demandé à Pastor, le chimiste des savants, et il a inventé le procédé. Un principe tout simple de condensation, d'après lui. Je t'avoue que je n'ai rien compris. Pour l'instant, c'est parfum fraise, mais on en teste d'autres. »
Elle se lécha les doigts avec délectation.
« Et le bruit ?»
demanda Alix, tout en lapant elle aussi le brouillard rose et sucré.
« Le bruit ?»
s'irrita faussement Sabi.
« Tu appelles ça du bruit ? C'est de la New World ! C'est Matifou qui joue ! Génial, non ? Je suis sûr que tout le monde adorera ça dans moins d'un mois. »
Une ombre traversa le voile brumeux et se rapprocha d'eux.
« Qu'est-ce que vous buvez ?»
C'était Estive, habillée avec une salopette en jean trouée au genou sur laquelle elle avait dessiné un arc-en-ciel. Ils commandèrent 3000 tchèques pimento, speed acide et cola chamallow.
« On fait le service à tour de rôle, » expliqua Sabi. « Cool comme lieu, non ?»
Et, osa demander Zizo, « l'idée du nuage, c'est pas un peu trop... »«
Glauque !»
termina Sabi.
« Pourquoi ? On est les enfants du nuage, vrai ou pas ?»
Quelque part dans la brume, Matifou en avait terminé avec son concert de bouteilles fêlées et était passé à la vitesse supérieure, expérimentant des sons plus insupportables encore. On aurait pu jurer qu'il essayait de couper une barre de fer avec une scie rouillée.
« Et comme ça, mon petit espion, » triompha Sabi, « on peut se retrouver, se parler, parfaitement incognito. Tu préférais la déco de ta prison ?»
Ils éclatèrent tous les trois de rire. Et Steve revint en apportant leur commande. Des ombres passaient autour d'eux, sans qu'il leur soit possible ni de les reconnaître, ni de comprendre le moindre mot qu'ils prononçaient, étouffés par l'ambiance de coton et couverts par la musique. Sabi étala sur la table les papiers ramassés sur le lit à baldaquin.
« Tu veux parier avec nous ?»«
Parier quoi ?»«
Quoi, quoi, quoi ?»
se moqua Sabi.
« Tu te rappelles, mon petit crapaud ? Tu parlais comme ça il y a 2 ans.
Zizo lui tira la langue, qui prit un goût de fraise.
Parier sur les couples, expliqua Alix. C'est ce qui nous amusait tant. On tire un nom au sort et on s'amuse à deviner qui sera son cavalier.
Elle mélangea les papiers et en prit un au hasard.
Isalis.
Sabi roula des yeux révulsés comme si son milkshake pimento avait été empoisonné.
Personne ne peut vouloir d'elle comme cavalière, à part peut-être Gulo Gulo.
Alix semblait moins catégorique. Pourquoi pas Jeanne d'Arc? Suggéra-t-elle. Elle ne peut pas s'abaisser à venir avec quelqu'un d'autre qu'un ministre. Carrément au Génor, alors, proposa Zizo. Sabi cligna de l'œil.
Tu plaisantes? C'est de sa reine qu'il est l'amoureux transi.
Alix réagit.
Vieille sorcière, Zizo, tu lui laisses dire ça?
Sabi enchaîna avant que le garçon, occupé à sucer la paille de son milkshake collache à Malo, ait eu le temps de répliquer.
Pour toi, mon petit crapaud, je parie mon poids en lollipops sur le nom de ta cavalière.
Ce n'est pas bien difficile, fit Alix en se rapprochant de son amoureux pour le câliner.
Je parie, reprit Sabi en faisant durer le suspense, sur Chrysante.
Alix lui lança sa paille façon javelot. Elle manqua de peu son œil gauche et se perdit dans le brouillard de fraises. Le visage de Zizo était devenu aussi rose que le nuage.
« Quel essai !» grogna Alix. « Et toi, traîtresse, tu veux que je mise ma couronne sur ton cavalier ?»«
Novak le Borgne ?» suggéra Zizo.
« Tu retardes d'un train !» siffla Alix. « Sabi va venir au bal au bras de quelqu'un de bien plus important qu'un soldat !» « Le plus beau de tous !»
compléta Sabi en léchant le bord de son verre déjà vide.
« Le plus fort et le plus gentil !»
Zizo ouvrit des yeux ronds sans comprendre de qui elle parlait. Alix leva son milkshake speed acide comme si elle portait un toast.
« Le chouchou de notre Sabi, c'est ton grand chef, Akan !»
Elle se tourna vers son ami.
Mais vu l'enthousiasme de notre secrétaire général de la paix pour tes envies de fiesta, c'est pas gagné, ma chère.
Elle trinqua avec sa meilleure amie.
Mais pas grave, s'il te résiste, il te reste Valère.
Cette fois, ce fut la paille de Sabi qui faillit éborgner Alix. Elles éclatèrent une nouvelle fois de rire alors que les yeux de Zizo jouaient au ping-pong entre les deux. Matifou avait été rejoint par deux autres musiciens qui semblaient imiter, pour le premier, le bruit d'un clou qu'on plante frénétiquement, et pour le second, celui du couinement d'une roue de moulin mal huilée. Dans le brouillard et le vacarme, elles continuèrent de tirer leurs papiers et de s'amuser à imaginer avec qui pourraient venir Liu, Vanille, Honora, et même Agnel, Lunella ou Solario. Zizo paraissait ne pas comprendre quel intérêt il y avait à se lancer dans de telles spéculations. Une ombre traversa soudain le nuage, et Steve apportait quatre nouveaux milkshakes.
« On n'a rien commandé !» protesta Alix. « Vous allez quand même bien trinquer avec moi !»
fit une petite voix derrière eux. Valère surgit lui aussi du brouillard. Les lunettes du savant historien étaient couvertes de buée rose. Il dut les retirer, tenta de les essuyer, mais ne fit qu'étaler des traces collantes sur le verre. Il s'assit presque à tâtons à leur table ronde et les regarda avec des yeux de hibou.
« Vous avez l'air de bien vous amuser. Vous jouez à quoi ?»«
À cavalier-cavalière, » répliqua aussitôt Alix. « On invente les couples pour le futur grand bal. » Sabi tenta de donner un coup de pied sous la table à sa meilleure amie, qui fut couvert par un nouveau morceau de New World. Une rafale de coups de marteau frappés sur des casseroles. Valère ne releva pourtant pas l'allusion, ce qui surprit Sabi. Elle était habituée à ce que l'historien ne rate pas une occasion de rappeler à quel point il lui était dévoué. Et qui pouvait être plus dévoué qu'un cavalier? Il se contenta de la regarder avec une profonde mélancolie.
« On verra, »
finit-il par dire en baissant les yeux.
« On a le temps, c'est dans plus de 6 mois. »
Sabi le trouva émouvant, comme souvent, mais elle aurait préféré se priver de Lollipops pendant 1 an plutôt que de le lui montrer. En plus, se força-t-elle à penser pour ne pas se laisser apitoyer, Valère s'intégrait parfaitement dans le décor du nuage rose, avec sa tête rouge couverte de boutons. Une fraise grandeur nature.
Pour l'instant, insista Valère, je n'ai pas vraiment la tête à penser à ce grand bal.
Zizo sentit qu'il n'allait pas apprécier la suite de la conversation.
Tu as la tête à quoi, ma fraise des bois ?
Demanda tendrement Sabine.
Ce foutu cartouche, ces hiéroglyphes à déchiffrer sur la couverture du dernier livre de Mordelia. Augénor qui met la pression à Liu, puis Liu qui nous met la pression. Si on avait ce livre entre les mains, ce serait quand même plus simple.
Zizo évita de croiser le regard d'Alix, mais il se doutait que son visage devait être plus rouge encore que le nuage et l'historien réunis.
« T'es un petit génie, ma framboise sauvage. Tu vas forcément y arriver. Mets-toi à la place d'Augénor. Il est obsédé par Mama Luna. Alors s'il se met à croire que ces gribouillis égyptiens vont permettre de la retrouver... »
« Il a raison, » affirma Valère tout en tétant son milkshake royal chantilly.
« On est au moins sûr de ça. » On a comparé les 6 symboles du cartouche aux centaines de hiéroglyphes dans le château. La moitié des savants s'y sont mis. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur le sujet et je suis parvenu à une certitude. Le cartouche parle bien de Marie-Lune et de sa tombe. Et d'un homme aussi, la deuxième figure humaine. Par contre, aucun savant n'a compris ce que le soleil et l'œil d'Horus viennent faire ici.
Tout en trempant les lèvres dans son milkshake, Zizo n'avait rien raté des informations dévoilées par Valère. S'il disait vrai, la question dont il avait discuté plusieurs fois avec Alix était plus que jamais d'actualité. Ce livre appartenait à Pierre Sol. Était-ce lui, l'homme debout sur le hiéroglyphe? Et dans ce cas, quel lien existait-il entre lui et Marie-Lune?
Je vais devoir vous laisser, fit Valère en vidant son verre. « Faut que j'y retourne !»
Une nouvelle ombre passa près d'eux, soulevant des volutes de nuages roses. Le brouillard se dissipa quelques secondes et ils découvrirent des dizaines de silhouettes d'ados installées aux tables voisines ou restées debout à converser, un verre à la main. Une seule ombre restait isolée, à quelques mètres d'eux, comme si elle s'était suffisamment approchée dans la brume pour les écouter. Ils reconnurent son visage avant que le nuage ne se referme à nouveau. Pépin le moineau. Sabi se leva, fouilla à tâtons les environs, mais il avait déjà disparu, pour de bon cette fois.
« Tu crois qu'il nous espionnait ?» s'inquiéta Alix quand Sabi fut assise. « Non, patate. Il venait te demander d'être sa cavalière au grand bal. Si tu commences à croire toutes ces rumeurs !»«
Quelles rumeurs ?» demanda Zizo.
À courir sans cesse entre le château et le tipi, il avait l'impression d'être toujours le dernier au courant.
Les rumeurs sur les moineaux, expliqua Alix.
Dès que quelque chose ne va pas au château, ce sont eux qu'on accuse. Un objet cassé, un truc qui disparaît.
Ta couronne mystérieusement volée, ajouta Sabi.
Forcément, poursuivit Alix, certains continuent de les considérer comme des déserteurs, des traîtres, des partisans de Mordelia qui n'osent pas l'avouer.
Personne ne sait ce qu'est devenu Mordelia. S'inquiéta Zizo. Ni Bill ?
Tous hochèrent négativement la tête.
« Je fais ce que je peux pour protéger les moineaux, » reprit Alix.
« Mais plusieurs d'entre eux ont été enfermés à la conciergerie. Pour quelques jours, d'accord, mais sans vraie preuve. Juste par prévention, comme dit notre ministre des punitions. »
« J'ai connu ça, » pensa Zizo en observant les murs de pierre derrière la brume rose. Être accusé et enfermé sans preuve, et pas que quelques jours.
Logique, fit Valère. Si vous aviez fait un peu d'histoire au lieu de manier vos baux ou vos pinceaux, vous ne seriez pas surpris. Des rois de France à la Révolution, la conciergerie a toujours servi à emprisonner les ennemis qu'on voulait écarter.
C'est-à-dire ? Demanda Zizo, soudain intéressé.
Eh bien, c'est simple, les moineaux sont des coupables idéaux. Dès que quelque chose ne va pas, on peut les accuser, personne ne les défendra. C'est toujours plus facile de dénoncer un ami que d'affronter un adversaire. Pourquoi crois-tu qu'on a créé un ministre des punitions et pas un ministre de la guerre? Un vol, et hop, On attrape quelqu'un, n'importe qui, et on l'enferme à la conciergerie. Qu'ils s'estiment heureux. Pendant la Révolution, en plus, on les guillotinait.
On les quoi ? Fit Zizo.
Il se promit qu'à la rentrée, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, il suivrait chaque jour un cours d'histoire chez les savants. Sabi mima une paire de ciseaux avec ses 2 doigts tout en sifflant entre ses dents.
Quic, quic, quic.
On leur coupait la tête, expliqua l'historien. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes y sont passés, sans qu'on ait rien à leur reprocher.
Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes y sont passés.
Les mots de Valère restèrent suspendus dans le cerveau de Zizo, comme s'il ne trouvait aucune place pour les ranger. Quelque chose le dérangeait dans cette référence historique, mais il n'arrivait pas à définir quoi. Une sorte d'absurdité, une impossibilité qu'il ne parvenait pas à cerner. Pourquoi ? Il n'y connaissait rien en histoire, à part ce qui avait un rapport avec les monuments de Paris et...
Tout s'éclaira d'un coup. Zizo venait de comprendre ce qui l'intriguait. Depuis 3 semaines, il s'était promené dans tous les cimetières de la ville et pourtant... Il n'avait trouvé aucune référence à ces révolutionnaires décapités.
Il interpella Valère avant qu'il se lève.
Et tous ces gens sans tête, où ont-ils été enterrés ?
Alix se tourna vers eux, étonné par la question de Zizo.
Au cimetière des guillotinés,
répondit l'historien avec une étonnante légèreté.
Son vrai nom, c'est le cimetière de Picpus. C'était le seul cimetière privé de Paris, un des plus petits aussi. Il est situé à l'intérieur d'un ancien couvent. C'est pour ça qu'il est très difficile à trouver.
Zizo avait tenté de ne rien laisser paraître devant Valère. Le nuage rose de Sabi l'avait bien aidé. Dès qu'ils avaient quitté le nuage rose, Zizo avait entraîné Alix dans le verger pour profiter de la douceur des derniers soirs d'été. Sabi n'avait pas insisté pour les accompagner. Elle comprenait toujours quand les deux amoureux avaient besoin d'intimité. Au-dessus du verger, l'orage s'était éloigné, laissant derrière lui les sillons blancs d'un magnifique ciel de traîne, comme si des milliers d'oiseaux avaient abandonné leurs plumes avant de migrer. Agnelle aurait adoré. Zizo attendit qu'il se soit suffisamment éloigné de la pyramide jusqu'au bassin octogonal pour partager son intuition avec Alix.
Ce cimetière de Picpus, c'est le seul de Paris qu'on n'a pas visité avec Chrysante. La plaque gravée se trouve forcément là-bas.
Leurs vêtements étaient collants d'être restés trop longtemps dans le nuage sucré. La moindre poussière, la moindre feuille qui volait venait se coller à eux.
« Tu veux que je vienne avec toi ?»«
Non, Chrysante n'a pas confiance en toi. Mieux vaut que j'y aille seule avec elle. Et cette fois, elle sera bien obligée de me lire la suite du récit. Sinon, juré promis, bouche de fer et cœur de verre, tu auras le droit d'en parler au conseil pour qu'il vienne lui arracher le livre, de force s'il le faut. »
« Enfin !» ne put s'empêcher de commenter Alix.
En face, de l'autre côté du fleuve, ils apercevaient les hauts murs de la conciergerie. Quelque chose les séparait. Tous les deux en étaient conscients. Une gêne sournoise s'insinuait entre eux. « C'est notre histoire, pas la tienne, » fit Zizo d'une voix calme et froide. « C'est l'histoire des enfants de la rue, celle des enfants du tipi. » Un pétale de rose rouge, soufflé par la bise, vint se coller sur le cœur d'Alix.
« Je sais. N'oublie pas tous les risques que je prends pour vous protéger. »«
Je sais. » Elle voulut l'embrasser, mais il était déjà parti.
Aux enfants des nuages, ici se sont envolés 518 petits anges, leur cœur bat encore sous la terre. Leur sang est devenu sève, leurs os sont devenus arbres, leurs chairs sont devenues fleurs. Ils sont les graines d'un nouveau monde. Vous qui passez, vous qui vivez, soyez-en à jamais les jardiniers. Chrysante gara sa poussette devant la plaque de marbre, sans un mot. Elle se contenta d'ôter le bonnet qui recouvrait la tête de porcelaine de Lali. Machinalement, Zizo retira lui aussi la casquette qu'il avait enfilée pour affronter le soleil d'août. Le cimetière de Picpus était entièrement baigné par l'ombre des grands marronniers. Les arbres centenaires dépassaient de plusieurs mètres l'enceinte qui fermait de chaque côté la cour grise. Des centaines de noms étaient gravés sur le mur de pierre. Quelques bancs étaient posés près des tombes, tous recouverts d'un épais lierre. La majeure partie du cimetière était bitumée, mais devant eux, sous la plaque, poussait un grand jardin fleuri de tulipes, d'œillets, de bleuets et de pensées. Le camaïeu éblouissant de couleurs semblait avoir été planifié par un paysagiste méticuleux et la terre ratissée il y a moins d'une semaine. Zizo parla de la voix la plus convaincante possible.
« Tu avais promis de... »«
Assieds-toi !» le coupa Chrysante. « Assieds-toi et écoute. » Ils s'installèrent sur l'un des bancs, côte à côte. Lali dormait dans sa poussette à 2 mètres 2, à l'ombre d'un marronnier. Une image stupide s'imposa dans la tête de Zizo.
« Nous sommes comme deux parents qui surveillent leur enfant. »
C'est ainsi que devaient être les parcs et les jardins, avant, joyeux et bruyants, avant que le silence n'y règne définitivement. Chrysante sortit le livre de son sac, tourna les pages, jusqu'à trouver une jonquille écrasée qui lui servait de marque-page.
« Maintenant, tu vas savoir, tu vas comprendre pourquoi nous ne pourrons jamais vivre en paix.